culte du 2 juillet 2006. Prédication apportée par le pasteur Alain Ouvrard. Thème de la méditation, le repos.
Je vous propose que nous fassions une lecture, psaume 116 et le verset 7. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Nul n'ignore que notre monde vit au rythme du prêt-à-poster, une invention de la poste. Également du prêt à consommer, vous savez, vous allez dans un supermarché, vous avez des petites barquettes, tout ça c'est prêt, vous n'avez pas à vous tracasser pour faire la cuisine. C'est peut-être pas un service qu'on rend aux dames qui vont se marier d'ici quelque temps, surtout pour les messieurs. Et puis nous sommes aussi au prêt à penser, vous savez, des idées toutes prêtes, hein, qu'elles soient dans un domaine ou dans un autre, hein. Puis bien sûr du prêt à porter, hein. Ça va être les soldes, je vous le rappelle. Tout ça c'est très facile, c'est très bien, mais c'est notre monde moderne tout simplement. Et avec un slogan qui s'attache à tout cela, c'est aller vite et toujours plus vite. C'est formidable, hein. Alors à cette cadence imposée, et je comprends que tout le monde n'arrive pas à suivre, le risque encouru est de passer à côté de l'essentiel. Bon, je sais que il y a des gens qui s'adaptent très bien à la société et puis à beaucoup de choses, mais je ne suis pas sûr que tout le monde arrive à garder le souffle jusqu'au bout. Et l'essentiel, en tous les cas, c'est ce qui nous rassemble ce matin. Pour nous chrétiens, nous sommes tout à fait convaincus de cela. Et je dirais même où la lenteur est un péché, voire une espèce de tare complexante, parce qu'on ne va pas aussi vite que les autres. Je dirais même, quelquefois, on pourrait taxer cela de pathologie d'attarder. Je suis un petit peu dur, hein, ce matin. Excusez-moi. Mais on a une journée éprouvante hier. C'est vrai que c'est cela, hein, dans bien des domaines, dans la vie d'entreprise, dans notre vie sociale, notre vie dans bien des aspects des choses. Et si on ne va pas au rythme des autres, bien finalement, on a un peu regardé de travers en disant, bien, c'est-à-dire qu'il y a une forme de discrimination et il y en a beaucoup qui restent sur le bord de la route, hein, me semble-t-il. Alors finalement, on est en train de faire de grands discours en disant faut aider ceux qui n'arrivent pas à suivre, et puis d'un autre côté, on accélère la mesure. Et ça, c'est un paradoxe. Je voudrais attirer votre attention ce matin et vous dire tout simplement attention à ce qui suit, parce que ça ressemble à un avertissement. Et l'avertissement, nous le trouvons, alors vous allez ouvrir votre Bible si vous voulez, encore si elle n'est pas fermée, je pense, vous l'avez encore sur vos genoux. Et dans le livre des Proverbes, chapitre 21 et au verset 5, écoutons bien ce qui nous est dit. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Et ça, on souscrit. Mais il est ajouté ceci, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Et c'est cette deuxième partie de ce verset, que celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Alors, en réponse à nos agitations, à nos impatiences, au rythme dans lequel nous sommes emportés, écoutons ce que nous dit la parole de Dieu. Alors je vais donner maintenant quelques versets bibliques qui vont étayer notre réflexion et qui vont nous faire rentrer dans le sujet. Dans un passage de la Bible, je cite tout simplement, il est dit ceci, « Si toi aussi, c'est pour nous, hein, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » Et on est tous à vouloir la paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Et Jésus d'ajouter, parce qu'il parle à Jérusalem, « Combien de fois ai-je voulu ? Ai-je voulu t'apaiser ?» C'est moi, hein, qui dis alors la suite, là. Maintenant, c'est plus le verset biblique, mais c'est moi, je paraphrase. « Combien de fois Dieu peut dire à son peuple, ou à peut-être à certains en particulier, mais combien de fois ai-je voulu t'apaiser ? Ai-je voulu te calmer, te ralentir, et en substance, te parler ? Parce que quand tu cours, je ne peux pas te parler. » C'est difficile. Mais tu ne l'as pas voulu, parce que tu n'as pas connu le temps où j'ai voulu te visiter. Le temps où j'ai voulu, eh bien, te donner un petit peu de souffle ou que te permettre de reprendre le souffle, et mais tu ne l'as pas voulu. Vous savez qu'on peut fatiguer le Seigneur. Alors vous dites, c'est pas possible, il se fatigue jamais. Mais on peut fatiguer les autres, ça c'est vrai. Mais on peut fatiguer Dieu parce que dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43, et je cite le verset 24, Dieu dit à Israël, tu m'as fatigué. Et tu m'as fatigué par tes iniquités. Et l'iniquité, c'est pas forcément des péchés grossiers, mais c'est des choses où finalement nous passons. Et... Au verset 47, toujours au chapitre 47 d'Ésaïe, il est dit ceci, tu t'es fatigué à Israël ou à Juda, je ne sais plus, à force de consulter, c'est-à-dire de regarder à droite, de courir après ceci, de courir après cela. Toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 57, à force de marcher, tu te fatigues, parce que tu ne sais pas t'arrêter. Jérémie ajoute, inspiré par Dieu, chapitre 12, il se fatigue au pluriel sans profit. Parce que si on se fatigue pour quelque chose qui en vaut la peine, d'accord? Mais si on se fatigue pour du vent, de la vanité, dans Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, vous le savez, Dieu dira, vous me fatiguez par vos paroles. Et si il s'agit d'Israël, quand Dieu dit, vous me fatiguez par vos paroles, c'est peut-être les paroles entre eux, mais c'est peut-être les paroles que l'on appelle des prières qui montent vers le Seigneur. Vous savez qu'on arrive aux vacances? C'est pour ça que je vous parle comme ça. Non, c'est pas pour ça. Qui dit fatigue, dit repos. On est d'accord? Et il est question dans la Bible de se reposer. Et le repos, se reposer, est aussi nécessaire que boire et de manger. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, moi je suis en pleine vigueur. Il y a des principes qui sont à remettre en place, et peut-être que nous allons voir aujourd'hui. Vous savez que dans cette parole merveilleuse, Dieu a voulu que sa création se repose de ses fatigues. Et il a créé tout un ensemble de choses qui fait partie de notre environnement, on les appelle les saisons, avec des alternances, des climats qui sont là pour permettre à la nature de se reposer ou tout simplement de reprendre son souffle. L'homme moderne a eu l'illusion, seulement l'illusion, a cru inventer les congés payés, ou les congés en tous les cas, et les week-ends. On fête le 70e anniversaire de 1936, hein, peut-être certains s'en souviennent, ça commence à faire un petit peu du temps maintenant. Mais vous savez qu'avant cela, avant Léon Blum, ça existait déjà. Et ça existait depuis longtemps. Et nous qui connaissons un tant soit peu la parole de Dieu, on sait que ça existait sous la forme du sabbat, sous la forme de l'année sabbatique, du jubilé, enfin toutes sortes de choses. Dieu permettait autant aux hommes qu'aux bêtes et à la nature, finalement, de se reposer. Notre société dite de loisirs, parce que c'est comme cela que, ou occupation du temps libre, on a même eu il y a une vingtaine d'années un ministère qui s'appelait le ministère du temps libre. C'est bien, hein? C'est vrai que cette société offre mille formes, finalement, pour ne pas rester tranquille. Alors que normalement, nous devrions nous reposer, s'agiter là où l'homme, eh bien, devrait quelques heures, finalement, décrocher et se refaire. Reprendre son souffle, respirer, et puis envisager quelque chose de nouveau, de neuf. Le terme « repos » hebdomadaire ou annuel est certainement inadéquat. Vraiment, nous le voyons dans le rythme de vie. Dans un monde survolté, il serait plus juste de parler de défoulement collectif. Parce que le temps qui nous est donné, on voit comment les gens l'utilisent. Et parfois, nous sommes attristés de voir aussi comment les enfants de Dieu utilisent ce temps qui est donné par Dieu. Un temps précieux, c'est quelque chose qui a de la valeur, et d'autant plus de valeur que c'est Dieu qui nous le donne. À en juger, tout simplement, par ce qui se passe autour de nous, des départs sur les routes, dans les magasins. Vous savez, cette ouverture des sodes, j'ai vu encore des images qui m'ont... Les gens n'attendent pas que les grilles soient levées, ils passent en dessous. À défaut de passer au travers, ils sont trop gros. Mais bon, toujours est-il que ce soit dans la montagne ou sur la plage, etc., etc., le paradoxe est frappant. Dans les comportements que l'on pourrait considérer, enfin en tous les cas, qualifier de désaxés. C'est terrible, heureusement qu'il y a des limitations de vitesse. Parce que je ne vous dis pas ce qui se passerait. Heureusement. Normalement, tout ça, c'est fait pour, eh bien, dans un but bien particulier, et on voit les gens qui reviennent de vacances après, bon, c'est, maintenant c'est rare, hein, un mois de vacances, mais 15 jours, 8 jours, ils viennent en disant, qu'est-ce que je suis fatigué de mes vacances. Non, mais c'est vrai, on entend les choses. Vous arrivez au travail, dans l'entreprise ou dans le bureau, en disant, oh là là, je suis fatigué de mes vacances. Les gens sont éreintés, ils sont stressés, alors que la sagesse élémentaire, finalement, crie à la décompression. Et je crois que c'est pas que la Bible qui le dit, mais le bon sens, pousse à la réflexion, et on assiste étonnamment à une course effrénée, sorte de compétition à qui, dans le temps, dans un temps limité, fera le plus de choses possibles, au sacrifice parfois du sommeil, il y en a qui n'ont pas beaucoup dormi cette nuit, d'une alimentation saine, parce qu'il faut manger normalement, bourré de promiscuité, parce qu'on sort et on descend des grandes métropoles, et on va là où il y a du monde, où il y a du bruit, où il y a de l'agitation, où il y a de la musique, beaucoup de choses, et d'interminables embouteillages. Voilà où l'homme moderne passe son temps. Et c'est vrai, bon, je suis en train de faire une caricature, vous allez dire, je suis un petit peu caustique, mais c'est quand même le reflet de notre société. Alors bon, que la société vive comme ça, d'accord ? Enfin, d'accord, je ne veux pas apporter de jugement, mais quelquefois les enfants de Dieu n'ont pas cette sagesse élémentaire de vivre au rythme que Dieu nous a donné. C'est étonnant. Cela s'appelle, paraît-il, les vacances. Alors, le mot repos, venons-en, est finalement réservé aux malades. Ben oui. À ceux qui se sont évertués à pousser les limites au maximum. Je dirais à tous ceux qui n'ont pas résisté au choc de la société, de la vie, que l'on envoie finalement dans des maisons de repos. Voilà. C'est assez paradoxal parce que je crois que même le vocabulaire dans notre société est complètement, complètement changé. On n'appelle plus les choses comme elles devraient s'appeler. Alors, donner la preuve que l'on est bien vivant, c'est vrai, et surtout quand on a 20 ans, c'est tout à fait normal. Eh bien, il y a des mots appropriés dans notre vocabulaire moderne. Ça s'appelle s'éclater, ça s'appelle se défouler, ça s'appelle casser la baraque, excusez-moi. Hein, j'espère que vous avez aidé. Hein. Mais on fait les choses comme ça. Mais cette attitude est une attitude suicidaire. Et c'est vrai qu'on en relève beaucoup sur le bord de la route. Enfin, on en relève, il y en a beaucoup qui tombent sur le bord de la route. Et n'est-elle pas plutôt symptomatique d'un désir d'échapper de toute force à l'ennui, aux frustrations de la vie, simplement à la monotonie? Parce que vous savez, le quotidien, eh bien, ça fait partie de la vie. Et le quotidien, on n'y échappera pas. Et je crois que ça fait partie aussi des choses qui composent notre existence. Alors, parce que les choses sont monotones, on va essayer de forcer, on va essayer de faire, de sortir, de passer certaines frontières. Et surtout, je crois que les hommes vivent ainsi, dans la crainte de se retrouver avec soi-même et de réfléchir. Ouais. Alors, on y va, on ne pense pas, comme ça, on va se donner des activités. Je suis pas là, je veux pas être radical et je pense pas que je le sois. Mais je pense qu'on prêche l'équilibre. Et je ne prêche pas seulement à des enfants de Dieu, à des chrétiens, mais je crois qu'il y aura ici des gens du monde qui pourraient nous donner des leçons dans ce domaine. Dans un certain sens. Il y a des gens qui savent très bien certaines choses. Alors de réfléchir. Et on s'aperçoit que les chrétiens n'échappent pas au phénomène. Bien au contraire. Et on le constate, hein. Nos églises se dépeuplent. Et il y a là toutes sortes de choses que l'on constate et qui n'existaient pas il y a encore peut-être quelques années. Parce que il y a une psychose, ce qu'on appellerait la hantise du bilan. Bilan avec soi-même, bilan en face de ce que l'on est, ce que l'on fait. Et c'est une véritable crise dans notre société. C'est problématique. Alors, cette peur, que cache-t-elle ? Qu'est-ce qu'elle cache ? Finalement, cette réaction, elle cache, je crois, bien souvent une détresse inavouée, celle qu'on ne veut pas regarder en face de crainte, de sortir du tourbillon, ce tourbillon enivrant, qui fait oublier la réalité. Alors on se dit, bien, on va se noyer, on va se donner, on va faire des choses qui vont nous occuper l'esprit, qui vont remplir notre âme, qui vont remplir notre cœur. On veut des émotions fortes, on veut là des choses qui nous bousculent, on veut des choses qui nous boostent, c'est le mot, hein, c'est ce que l'on emploie aujourd'hui. Et tout cela, c'est quand même assez grave, parce que ce tourbillon, cette impression finalement, ce tourbillon est préférable. C'est l'illusion d'être, c'est de vouloir quelque part, là, aller très très vite, et ça donne le vertige. Et le vertige, c'est pas très agréable, parce que on ne veut pas sombrer dans la dépression. Et vous savez que notre société est une société dépressive. Quoi qu'on en dise, malgré les cris, malgré tout ce que l'on peut faire, malgré les grands messes politiques ou sportives d'une manière haute en couleur, ouais, on est dans une société dépressive. Et on n'y échappe pas non plus, dans un certain sens. Et le chrétien se prend à finalement à rentrer dans cela. Dans une certaine mesure, on vit dans le monde et on a certainement quelque chose à y dire. Mais peut-être pas à faire comme tout le monde. On a peut-être quelque chose, certainement. C'est un peu le réflexe du naufragé, hein. Plus il se débat, plus il s'épuise. Et que l'Église de Jésus-Christ, plus elle se débat, plus elle s'épuise, peut-être c'est une constatation. Alors on essaie de puiser dans toutes les ressources, dans toute l'imagination, toutes les ressources sont bonnes pour justifier, pour que le manège ne s'arrête jamais. Mais à un moment donné, il faut faire le point. Il ne faut pas que ça soit trop tard, naturellement. Tout sauf l'arrêt. Et on sait très bien que, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui sont harassés d'une année de travail, les premiers jours de vacances sont des jours assez difficiles, hein, vous l'avez vécu, on ne sait plus où on en est rendu. On a perdu nos marques, on a perdu nos repères, on n'a plus notre... Et on se dit, quelquefois, on est très très fatigué à ce moment-là. Et même psychologiquement, parce qu'il faut que ça s'arrête, et c'est normal que ça s'arrête. Il y a pourtant une tragédie dans cette citation qui vient. C'est celle que nous laisse Dieu dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 28, et au verset 12 et 13. Quand il est dit ceci, chapitre 28, versets 12 et 13, écoutez bien, c'est Dieu qui parle encore à Israël, alors ça fait 3000 et quelques années, hein. 2800 et quelques années. Alors voyez, c'est pas nouveau tout ça. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu de repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Règle sur règle. Un peu ici, un peu là, mais on ne s'arrêtera pas. Voici le lieu de repos. C'est souvent dans le repos de l'âme, s'entend naturellement le repos du cœur, mais le repos de l'âme et de l'esprit que Dieu parle pour écouter ce qu'un jour un homme qui n'est pas un des moines, qui s'appelait Élie le prophète, a dû entendre alors qu'il courait dans le désert depuis je ne sais pas combien de temps, où Dieu ne lui a pas parlé dans le tonnerre, il ne lui a pas parlé dans un vent violent, il ne lui a pas parlé à travers là tout le tremblement de terre, il lui a parlé dans un souffle doux et léger. Et oui, dans un souffle doux et léger. Et ce matin, nous partageons un temps où Dieu veut nous parler. Il veut mettre quelque chose sur notre cœur. Il veut nous faire du bien. Nous, en tant que parents, moi j'ai eu des enfants. Oh, ils n'étaient pas plus ni moins que les autres. Hein. C'était des enfants, tout simplement. Mais quand ils étaient trop turbulents, j'étais obligé de les calmer, de courir après, quelquefois. Hein. À l'époque, j'étais jeune. Mais de les attraper, de leur dire, arrête, j'ai quelque chose à te dire. Et moi, je ne me demande pas si notre Père Céleste, quelquefois, est en train de nous attraper par un bras, ou là où il peut, et nous dire, j'ai quelque chose à te dire. Je voudrais te faire entendre quelque chose, alors arrête. Repos après l'effort. Repos après la guerre, on appelle ça le repos du guerrier. Repos après la maladie, on appelle ça la convalescence. Repos avant d'entreprendre. Parce que dans la pensée de Dieu, eh bien, on se repose avant de commencer quelque chose d'autre, pour que nous soyons enfants, pour aller jusqu'au bout. Repos dans la nature. Le calme après la tempête. Le facteur fatigue génère au moins trois réflexions particulières, et parce que nous sommes des hommes et nous sommes dans un corps et nous devons en tenir compte. La première chose, c'est que la fatigue est destructeur d'équilibre. C'est vrai. Elle modifie la conscience des choses et des situations et des êtres. Quand il y a des décisions à prendre, frères et sœurs, je le rappelle, je vous l'ai déjà dit, ne prenez jamais une décision à 11 heures le soir. Parce que ça risque d'être un petit peu particulier. Et ne rentrez jamais dans une discussion pour arranger les choses et que ça, qu'il y ait du conflit dedans. La deuxième chose, c'est que la fatigue est une arme, un moyen, une manipulation idéale pour l'adversaire. Parce que quand on est fatigué, eh bien là, on craque. Et on va dire des choses et on va faire des choses qu'on va regretter après. Troisième chose, encore une fois de plus, c'est que la fatigue, c'est un vecteur de mésentente et d'explosion. Vous le savez, vous n'êtes jamais mis en colère. Et quand on est fatigué, on supporte moins les choses. Quelquefois, dans certaines situations, on est bien, on est reposé, et puis bon, on entend, puis bon, ça va passer. Mais quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, et que vous avez des gens qui sont toujours en train de vous demander « je veux ceci, je veux cela », et puis « dis-moi, réponds-moi », etc., etc., à un moment donné, on allume quand même la mèche. Hein. Et c'est dommage. Vous savez que le mot « repos », seulement le mot « repos », revient plus de 130 fois dans la Bible. Les mots « travail » et « travailler », les deux, ne réunissent que 110 citations. Vous voyez la différence ? C'est intéressant hein, de voir ça. Le dénominateur commun entre l'action et le repos, c'est l'équilibre. Et moi, je crois que Dieu veut que nous entendions parler d'équilibre. Dans un monde où il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de repères. Et je crois que ça, c'est quand même... Enfin, me semble-t-il, enfin pour moi, je le prends pour mon compte, je pense qu'un prédicateur, un pasteur, doit prêcher l'équilibre dans l'église. Parce qu'une église où il n'y a plus d'équilibre, ça s'en va dans tous les sens. Il y aura des conflits, des divisions, toutes sortes de choses. Et je crois que dans une famille, un père de famille qui est à la fois, eh bien là, l'autorité, et puis le chef spirituel quand il s'agit des chrétiens, doit prôner l'équilibre dans une famille. Un homme qui est investi d'un pouvoir, une élévation dans l'autorité d'un pays ou de quelque chose, il doit être un homme équilibré aussi, ce soit au niveau du maire ou du préfet ou du président de la République, etc. Alors pourquoi on ne le serait pas dans l'Église ? Un homme dont vous avez entendu le nom, qui s'appelle John Wesley, fondateur de ce mouvement méthodiste. John Wesley disait ceci, « Je n'entreprends jamais plus d'ouvrage que je ne peux en faire afin de conserver mon être intérieur en bonne santé. » Il avait vu juste, hein ? Eh oui. Il y a des choses et il y a des choix à faire tous les jours, frères et sœurs. Il y a des choses qu'on a envie de faire. On a plein d'idées dans la tête. C'est vrai, hein ? Mais on est obligé de faire une sélection. Alors, quand on est dans la jeunesse et la pleine force, on peut, c'est vrai, on se lance dans des aventures, etc., etc. Maintenant, si je pose la question à mes frères et mes sœurs qui sont couronnés d'argent, vous voyez ce que je veux dire, c'est gentil, hein, c'est beau, hein ? Hein ? Eh bien, je suis sûr que vous avez appris les choses et qu'aujourd'hui, peut-être même avec une certaine frustration, et de dire « mais je n'ai plus les forces de 20 ans », n'est-ce pas, M. Balza et puis Mme Gourdin hein ? Vous pouvez donner des conseils aux jeunes, ouais, et on vous écoute, parce qu'il y a quelque chose à recevoir de nos frères et nos sœurs qui sont arrivés à un certain âge, puis les autres. Hein. Ouais. Parce que là, on est bien obligé de ralentir, hein. Alors, c'est ce que John Wesley disait. Vous noterez le motif qui le mesure dans l'engagement de l'œuvre de Dieu. Et il ajoute ceci. Nous perdons un temps précieux et des forces nécessaires en nous attelant à tout vouloir faire sous prétexte. Écoutez bien, parce que ça nous concerne, nous, enfants de Dieu. Sous prétexte que l'heure est avancée et que le monde va à la dérive et va à sa perdition. C'était Wesley qui disait ces paroles au XVIIIe siècle en Angleterre. Parce qu'on peut tomber aussi dans l'écueil de l'activisme au sein d'une église. Et toucher à tout, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Ce que Dieu attend de nous, c'est la consécration. C'est la fidélité. Et en lieu et place de la quantité, il attend de la qualité. C'est ça la différence. pour mieux en faire moins, mais de le faire bien. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Et il disait, on peut toujours prétexter que finalement, eh bien, le Seigneur revient bientôt et que là, le monde entier est perdu. Naturellement, on peut y passer nos jours et nos nuits. C'est pas ce que Dieu nous demande. Parce que finalement, en matière et en conception de salut, c'est pas nous qui sauvons, c'est Jésus qui sauve. Et là, c'est une fausse conception des choses. Il suffit de regarder comment on a été repêchés, nous-mêmes, personnellement. C'est Jésus qui sauve, ce n'est pas l'ouvrage qui sauve. Que nous mettions sous l'inspiration de l'Esprit ce que Dieu nous donne de faire, et qu'il nous donne des mains sages, des mains intelligentes pour le faire, d'accord, et que nous soyons à notre place pour le faire, d'accord. Maintenant, de vouloir toucher à tout, c'est autre chose. Soyons fidèles et restons dans l'équilibre. À terme, attention à l'épuisement spirituel et psychique généré par l'engouement de toutes sortes de choses. Une chose qui est apparue dans les églises, églises évangéliques, je parle, ça a toujours existé, mais aujourd'hui ça se multiplie, c'est les dépressions spirituelles. Dans le temps, eh bien, il y avait des choses à traiter, il y a toujours eu des choses à traiter. Il y avait des gens malades, physiquement. Il y avait toutes sortes de problèmes, il y en a toujours eu, il y en aura encore. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit, et ça c'est étonnant, que nous, les pasteurs, nous avons à traiter ce que l'on appelle relation d'aide, etc., etc. Des situations, non pas à l'extérieur de l'Église, moi je veux bien en traiter à l'extérieur de l'Église pour évangéliser, mais c'est à l'intérieur de l'Église que ça se passe. Des gens qui s'écroulent, des gens qui tombent dans toutes sortes de choses, dans des travers, et qui passent par des dépressions spirituelles. Et ça, c'est préoccupant pour l'avenir. C'est un souci. Je dis, il y en a toujours eu, mais maintenant ça se multiplie. D'ailleurs, les errants sont clairsemés. Et il y a des raisons. Parce qu'à la dépression spirituelle ou psychologique, parce que nous restons quand même dans un corps, eh bien, ça entraîne toutes sortes de conséquences. Il y en a qui partent à la dérive, il y en a qui font n'importe quoi, il y en a qui s'en vont dans toutes sortes de, je ne sais quoi, dans sortes de rêves ou autre chose. Mais ça se termine souvent mal. Alors, vous savez, quand on donne plus de place à toutes sortes d'inspirations, même que l'on va chercher soi-même, avec quelquefois des prétentions ronflantes, excusez-moi, hein, mais je ne suis pas avare de mots, et quelquefois derrière des projets ou des méthodes qui sont aguicheurs, qui superposent une lecture méditative de la parole de Dieu, qu'on va chercher des recettes et des méthodes ailleurs que ce que Dieu nous dit, et que là, à ce moment-là, alors que nous sommes en concentration dans la prière pour que Dieu nous inspire par le Saint-Esprit dans la compréhension de ce qu'il attend de nous, c'est pour ça que je vous disais du prêt à consommer, du prêt à poster, du prêt à porter. Eh bien, ça existe dans les églises aussi, dans nos églises. Mais ça, c'est pas, enfin moi pour moi, hein, je serais peut-être le seul à le dire, mais toujours est-il que c'est pas ça ce que Dieu veut. Vous savez, quand on en abandonne ou quand on en oublie la sainte parole, parce que vous savez, hein, les siècles ont passé avant nous, hein, et il y a eu des générations et des générations de chrétiens qui n'avaient que la Bible, et à certaines époques, il n'y a même pas la parole de Dieu. Ils étaient en connexion avec le Seigneur. Hein. Vous savez, on a de la chance, hein, d'avoir une Bible. Enfin, on en a, je sais pas moi, on en a plusieurs à la maison. Hein. Mais plus on en a, moins on la lit. Moins on s'en inspire. Et on va chercher toutes sortes de choses, de droite et de gauche. Moi, ça ne me dérangerait pas si ça n'avait pas des conséquences néfastes, c'est tout. Pas tous les gens, ils se nourrissent avec ce qu'ils veulent, hein, comme ils veulent. Hein. Moi, vous m'emmenez au restaurant, je ne sais pas ce que je vous demande, vous m'emmenez dans un restaurant qui fait de la bonne cuisine, j'irai. Mais McDo, attention, je recule. D'ailleurs, à ce propos, il y a un autre concurrent à McDo qui s'appelle Quick. Vous savez ce que ça veut dire, Quick, en anglais? Ça veut dire vite. Vous mangez vite et vous grossissez. Voilà. Le prophète nous dit ceci, je m'épuise à crier, mon gosier se déchaisse, se dessèche, mes yeux se consument. Tandis que je regarde vers mon Dieu, voilà un homme qui est épuisé. Mais où est-ce et dans quoi et pourquoi je recherche telle et telle chose? Le psaume 34 nous donne la réponse à cette pathétique question de l'homme de Dieu qui dit « Mais je m'épuise à ceci, à cela ». Eh bien, le psaume 34 nous répond d'une manière admirable, et ça on devrait le garder dans son cœur. Il dit ceci « Quand on tourne vers lui les regards, on est découragé ». Ah, je vois que vous avez encore de la réaction, hein. Malgré l'intensité de la chaleur. Alors, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Mes frères et sœurs, regardons vers le Seigneur. Pour nous, il n'est pas invisible. Le Seigneur n'est pas invisible pour nous. N'est-ce pas l'évocation du repos dans sa présence? On a besoin de prendre des temps de ressourcement. On a besoin de prier tranquillement. On a besoin de se retrouver soit en couple, soit en famille, en église, parce qu'il y a des choses qui sont faites pour ça. On a besoin d'avoir quelquefois des temps où on est soi-même en communion avec le Seigneur. Le repos de sa présence. La parole de Dieu offre la réponse. Quand nous écoutons ces choses, et par temps de canicule, ça fait du bien d'entendre cela, quand il est dit « comme de l'eau fraîche » pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Mais la terre que nous recherchons, même si elle est desséchée, elle n'est pas si loin que ça, elle est dans la parole de Dieu, elle est dans ma communion avec le Seigneur. Comme une eau fraîche, vous savez, c'est du bien de boire de l'eau fraîche. En ce moment, il vaut mieux boire de l'eau fraîche. C'est mieux que toute autre boisson. Jésus nous parle de repos sous la forme d'invitation et de promesse. Je vous donnerai le repos à ceux qui sont chargés et fatigués. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Les âmes sont fatiguées et elles sont malades. L'âme, autant que le corps, a besoin de se reposer. Il apparaît que les épuisements du corps ont pour origine le surmenage. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup dans notre société parce que plus on a réduit le temps de travail, plus on a donné de l'intensité au travail. Et les gens sont fatigués. Alors on fait peut-être que 6 heures. Enfin, je ne sais plus, moi... une certaine époque on faisait 8 heures par jour, après on a fait 7 heures et quelques, puis ça diminue de plus en plus, mais on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus fatigués. C'est terrible cela. Il y a des gens qui ont fait 45 heures, hein, 44-45 heures, et puis peut-être encore plus à une certaine époque, hein. Bon, c'est bien, on est réduit quand même, mais bon, on s'aperçoit que on parle de surcharge de la vie intérieure, c'est-à-dire de l'âme, et réciproquement, parce que quand ça va pas à l'intérieur, ça va pas à l'extérieur. Quand ça va pas à l'extérieur, eh bien, on a aussi des contre-coups à l'intérieur. Et négliger un état intérieur dégrade, qu'il faut nécessairement soigner. Il faut préserver ses forces. Il faut savoir faire les choses avec la grâce de Dieu. Parce que tôt ou tard, eh bien, nous allons nous précipiter dans ce mal, qui est la déprime, la dépression. Notre pays est le deuxième consommateur de barbituriques, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs au monde. On y va, on aime les bonbons, hein. C'est sûr. Alors, à force de forcer, il y a forcément un court-circuit. Si vous chargez un peu trop, moi j'y connais rien à l'électricité, il y en a peut-être qui pourraient m'enseigner. Mais si vous mettez trop de... ça va. Enfin, on a mis des disjoncteurs. Enfin bon, ça évite l'incendie. Mais quelquefois, nous, on n'est pas munis de disjoncteurs. Et il y a le feu. Dans un autre passage du prophète Ésaïe, on sent toute la compassion divine pour l'homme épuisé autant sur le plan moral que spirituel. Au chapitre 57 d'Ésaïe, on tourne encore quelques pages de notre Bible, il y en a des textes sur le repos et sur la sagesse. Donc 57 verset 15, quand il est dit ceci, 57 verset 15, écoutez bien, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Eh oui, écoutez bien, Dieu nous dit, je voudrais te ranimer. Et il y a peut-être des frères et des sœurs qui ont bien compris ce que ça veut dire ce matin. Et Dieu lui dit, mais je voudrais te ranimer parce que finalement ta vie, elle est peut-être d'apparence, mais moi je sais ce que tu vis à l'intérieur. Tu vis dans un épuisement. Tu vis parce que tu n'as pas respecté certaines règles élémentaires. Tu vis parce que l'angoisse, parce que l'inquiétude, parce que l'avenir, parce que ceci, parce que tes projets, parce que ce que tu imaginais de ce que serait ta vie, tu n'arrives pas à le réaliser. Alors tu es complètement desséché. Tu es en train de te vider de ta substance. Et Dieu dit, mais je veux te ranimer. Je veux te faire du bien. Et il est avec l'homme contrit, hein. Alors résistons pas, parce que... Et par contre, celui qui reste sourd à la sagesse devient la proie de sa propre folie. C'est encore le chapitre 57 qui nous dit cela, au verset 20 et 21, quand nous lisons « Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour le méchant. Enfin, quand on dit méchant, c'est au sens peut-être naturellement comme on le comprend. Mais celui qui ne veut pas écouter, qui dit « mais je veux forcer encore !» Alors qu'on le trouve peut-être chez les enfants du monde, mais qu'on le trouve chez les enfants de Dieu. Frères et sœurs, ne forcez pas. Si vous sentez qu'il y a un blocage quelque part, ne forcez pas, je vous en supplie. Vous n'aurez pas gain de cause. Le Seigneur vous dit « viens et fais-moi confiance, repose-toi. Abandonne ce que tu ne peux pas porter. Arrête !» d'essayer d'atteindre un sommet que tu ne peux pas, auquel tu ne pourras pas y arriver tout seul. Alors repose-toi en moi. Alors maintenant, je voudrais parler de ce qu'est le vrai repos, ce que l'on appelle le repos de la foi. Vous avez compris ? Repos de la foi, c'est un terme. Nous allons regarder brièvement le prix inestimable qui a été payé pour nous pour notre repos. Parce que quelqu'un a pris notre place. Eh oui. On a des maisons de convalescence, des maisons de repos, des maisons de retraite, tout ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui est encore mieux que ça. Pour le peuple de Dieu fatigué. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, mais j'ai fait les choses à ta place. Alors il n'y a qu'une chose, eh bien tu me fais confiance, tout simplement. Tu me fais confiance ou tu continues à foncer tête baissée et tu vas te retrouver dans le mur. Vous avez lu dans le livre des Actes au chapitre 20 cette parole. Au moment de la Pentecôte. Afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous. Des temps de rafraîchissement. Ça, ce sont des beaux mots. C'est une belle phrase. C'est quelque chose qui fait du bien quand on entend cela. C'est, on se dit, mais Seigneur, on aspire à cela. Vous savez que Jésus n'a connu aucune trêve. Ce qui a fait dire au prophète Ésaïe, toujours lui, hein, qui avait une grande connaissance dans cette projection prophétique, il a dit ceci en raison, en parlant du serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire de Jésus. Donc, pour nous dire que Jésus n'a connu aucune trêve, mais à cause de nous, qu'à cause du travail de son âme, Ésaïe 53, il rassasira ses regards. Vous connaissez ce texte ? Tout le monde le connaît. Forcément, tout le monde le connaît. C'est le pro-évangile, c'est l'évangile avant l'évangile. Il rassasira ses regards. Qu'est-ce que ça veut dire ? À cause du travail de son âme. On pourrait presque exprimer cette pensée comme suit. Reposant ses regards. Ça, c'est une autre traduction qui nous est donnée dans la Bible. À cause du travail de son âme, Jésus a reposé ses regards. Et il y a un sens. Il y a un sens tout à fait particulier. Parce qu'il est question de fruits et de résultats de l'œuvre colossale dans le cœur et dans l'âme de tous ceux qui, par le salut qu'ils ont reçu dans la personne de Christ, la place de Christ dans leur vie, ceux et celles qui se reposent sur lui et en lui. Jésus a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Le travail que le diable nous excite à faire, que les hommes nous enjoignent à faire, eh bien le Seigneur l'a fait pour nous. Et ça, c'est le principe de la foi, et je me repose dans sa grâce. Vous entendez souvent parler de ça, hein ? Parce que moi, l'Évangile, c'est ça. L'Esprit de Dieu me dit que c'est ça, c'est la grâce. Durant 3 années harassantes, Jésus n'a connu aucune trêve, je vous l'ai dit. Il n'a jamais cessé de parler, de guérir, de consoler, de porter, de soutenir, d'encourager, sans répit. Et c'est pour cela qu'il a pu dire à un moment donné, et ça nous sert aussi à nous dans notre réflexion, il dira, mais les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où se reposer ou reposer sa tête. Comprenez ce que ça veut dire ? C'est que pendant 3 ans, il y a une intensité de travail, mais que nous ne pouvons pas nous imaginer, parce que ce n'était pas seulement un travail apparent. Et seulement dans les apparences, les évangiles sont remplis de fêtes, de gestes, d'actes de Jésus, mais qui remplissent avec une densité extraordinaire. Alors il arrivera à dire, à un moment donné, mais les renards, les animaux, ont, eux, des lieux de repos, des gîtes. Mais le Fils de l'homme, moi, Jésus, ben moi je n'ai pas un lieu pour me reposer. Jésus, nous pouvons dire, a été... celui qui était dévoré par le zèle de sa maison ou de sa mission, comme vous voulez, en parlant, en annonçant le salut, pour sauver naturellement, Il était interrogé sans cesse par ses disciples, ce qui nous a donné ces beaux textes de référence, naturellement. Il a été sollicité par des foules immenses, puisqu'il nous est parlé de foules au pluriel qui suivaient Jésus. Il a été confronté avec des spectacles de désolation, c'est-à-dire tels que les malheureux, les malades, les boiteux, les aveugles et tous ces gens-là. Et alors, qu'est-ce que l'on fait dans cette chose, devant une situation? On se dit, mais qui peut être suffisant pour toutes ces choses? Mais Jésus a été confronté avec ce spectacle. Il a été harcelé sans cesse par ses adversaires. Il a été talonné par des gens qui ne lui laissaient même pas le temps de manger. Marc nous le rapporte. Et nous le voyons un jour, en pleine chaleur, épuisé sur la margelle d'un puits. Vous connaissez l'histoire. Réclamant un peu d'eau, seulement un peu d'eau. Sa faim un petit matin, le porte qui l'emmenait à Jérusalem, eh bien le porte à mettre la main dans un figuier et il trouve il découvre qu'il n'y a pas de figue. Nous le rencontrons aussi, veillant et priant, des nuits entières sur la montagne. Et voilà qu'un jour, il s'est endormi de fatigue dans une barque. Et il fallait qu'il soit bien fatigué parce qu'il nous a dit qu'il y avait de la tempête. Alors, imaginez-vous, quand ça bouge, on ne dort pas. Hein. Et on est même venu perturber son sommeil, parce que les disciples à ce moment-là sont venus le tirer de son repos en lui disant « Mais tu ne vois pas qu'on périt ?» Mais justement, c'était précisément ce que Jésus faisait. « Tu ne vois pas que nous périssons ?» Aucun repos pour Jésus. Pourquoi tu t'inquiètes de ce que tu vois que nous périssons et tu ne fais rien ? Et je dirais pas, jamais de repos pour Jésus, jusqu'à ce que cette parole soit prononcée sur la croix. Tout est accompli. Alors, mes frères et mes sœurs, à partir de ce moment-là, pourquoi cherchons-nous à accomplir ce que Jésus a déjà accompli? Ça ne nous défraie pas de faire ce que nous avons à faire. Mais une chose, c'est que nous sommes à ce moment-là, si nous rentrons dans ce mécanisme charnel, humain, religieux, eh bien, nous nous mettons en quelque sorte dans une position où nous proclamons devant les hommes et devant Dieu ce que Jésus a fait, c'est pas suffisant. Puisqu'il a dit tout est accompli. Et nous sommes des incrédules. Excusez-moi. Hein. Ah oui. Parce que le principe de la foi, c'est précisément l'inverse. Ça ne veut pas dire que nous allons attendre que le ciel, que nous soyons emmenés. Non, c'est pas ça. Mais c'est les conséquences quelquefois d'une attitude, d'un comportement de frénésie, d'un comportement qui va là jusqu'à non seulement nous bousculer nous-mêmes, mais si on se bouscule soi-même, il n'y a pas de mal. Je vous dirais, c'est votre affaire. Mais quand on bouscule les autres, eh bien c'est pas normal. Parce qu'on ne respecte pas les autres. Et chacun a sa façon. On ne respecte plus dans notre société les gens qui ont un certain âge. Quand on voit parfois dans les transports en public que des gens plus jeunes ne laissent même pas la place à une personne qui est enceinte ou à une personne âgée. Alors écoutez, il faudrait reprendre un petit peu de politesse et puis de civilité. On est obligé aujourd'hui de dire l'ABC des choses aux gens. Je me dis, mais c'est pas vrai. Alors pour revenir à notre propos, moi je dis que nous devons vivre dans le courant de la grâce, dans le courant de la foi. Dieu m'a donné une conviction de faire ceci et cela, mais je sais que c'est pas moi qui vais le faire, c'est pas l'ouvrage qui est le plus important, c'est celui qui l'a déjà accompli, puisqu'il a dit qu'il avait prononcé que c'était déjà accompli. Vous connaissez cette parole, Éphésiens chapitre 2, Dieu a préparé, nous avons été créés en Jésus-Christ, on est créé ou on n'est pas créé? On est né de nouveau, on n'est pas né de nouveau, on est sous la conduite de l'esprit ou on ne l'est pas? Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que, de bonnes œuvres préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Tout est accompli, c'est un mot que j'aime beaucoup. Et Jésus pourra dire dans la prière sacerdotale, je t'ai glorifié sur la terre parce que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Elle est achevée. Merci Seigneur parce que tu changes radicalement notre vision de la vie spirituelle. Eh oui, merci Seigneur parce que je me repose en toi. On ne chante pas ce cantique, ce vieux cantique des ailes de la foi. Sur toi je me repose. Il est beau. Moi c'est un des premiers cantiques que j'ai entendus. Sur toi, je me repose. Ah oui, Seigneur, c'est formidable. Le repos, frères et sœurs, c'est formidable. Et vous savez, quand on est dans le repos, on fait beaucoup de choses. Mais on fait des choses efficaces. Et je comprends ce que Dieu veut me dire à ce moment-là. Je ne suis pas de toucher à n'importe quoi et faire n'importe quoi. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. En d'autres termes, Jésus voulait dire « Ceux qui est fait ne l'auront pas à faire, puisque c'est déjà fait. » Ou à le refaire. Et vous savez que les grandes formations chrétiennes ont mis tout ça par-dessus, là, avec les commandements d'église, avec ceci et cela. Il faut monter au ciel, il faut gagner son ciel. Mais quelquefois, nous, les évangéliques, on est sur une voie qui est préoccupante. Hein. Ah oui, moi, je me dis que d'ici quelque temps, on va virer d'où nous sommes venus. Faisons attention. Après l'effort suprême de Gethsémané, Jésus de dire à ses disciples encore, « Maintenant, reposez-vous, car l'heure est venue. » C'est pas vrai? Je relis, hein? « Maintenant, dira Jésus, reposez-vous, car l'heure, c'est assez, l'heure est venue. » Savoir se reposer en Christ. Aujourd'hui, Jésus trouvera-t-il dans ma vie une maison ornée et balayée, ou un désordre indescriptible dont il ne pourra se rassasier les regards? Seigneur, si tu regardes dans ma vie, oh, il y a des choses qui ne sont pas toujours... c'est vrai. Mais une chose qui est certaine, si je me tiens dans le repos en Dieu, je goûte sa présence. Et là, ça m'amène à le louer, à le bénir, à l'adorer. Seigneur, tu es merveilleux. N'est-il pas merveilleux? Tout à l'heure, nous l'avons chanté. C'est beau le cantique, hein? Une maison ornée et balayée. Quelquefois, il y a des vies où il y a beaucoup de désordre. Tout est sans dessus dessous. Ça se voit pas comme ça. Ça se voit pas aux yeux des hommes, mais le Seigneur le voit. Hein. Et Dieu nous dit, mais attends, fais une pause. Puis on va remettre les choses en ordre. Et vous savez qu'on se sent mieux quand les choses sont rangées. Hein. Oui, il y a des choses, quelquefois, c'est bien chez moi. Je dis ça parce que c'est pour faire plaisir à mon épouse, mais elle le fait. Hein. Hein, mais toujours est-il que c'est bien fait. Mais quelquefois, ça nous est arrivé à chacun de chercher des affaires et se dire... Alors, c'est pas la faute des autres, c'est quelquefois, c'est souvent ma faute, parce que j'ai déposé quelque chose. Mais bon, quand c'est rangé, on le retrouve. Mais il y a aussi le cas contraire, c'est tellement bien rangé qu'on ne sait plus où on l'a mis. Ça, c'est arrivé aussi. Alors, encore une fois de plus, équilibre. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il trouve quand il regarde? Grave question. Dont on ne peut dissimuler les effets, parce que quand il y a du désordre quelque part, ça se voit à l'extérieur, ça c'est sûr. L'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre, frères et sœurs. C'est un esprit de calme, c'est un esprit de patience, c'est un esprit de maîtrise de soi, c'est un esprit de modération. Et quand il y a tout cela, ça donne quoi? Ça donne la paix. Une église qui est dans l'effervescence charnelle, il n'y a pas la paix. C'est clair. Une famille qui est en effervescence pour une raison, pour une autre, ou pour des raisons au pluriel, il n'y a pas la paix. Et Dieu nous a appelés à être des hommes et des femmes de paix. Si je vis dans ce vrai repos, comment les autres vont le ressentir? Parce que ça, c'est aussi une question à nous poser. Parce que si je suis un homme de paix, et je vais amener la paix aux autres, je vais leur donner des paroles de paix, s'ils sont agités, je vais les calmer, par simplement, quelquefois, pas grand-chose, mais par mon attitude. Mais si j'amène de l'eau au moulin, si j'amène du feu encore, parce que moi-même, je ne suis pas dans ces conditions, ah ben, ça donne jamais de bons résultats. Jamais de bons résultats, et le Seigneur certainement n'a pas sa part dans tout cela. Comment les autres sentent-ils ces choses? Et puis, je termine, ce sera la conclusion, frères et sœurs. Dans le bruit et l'inquiétude, parce qu'on vit dans un monde où il y a du bruit, et il y a beaucoup de soucis d'inquiétude. Quand je veux forcer l'affirmation de ma personnalité, et ça arrive aussi dans le peuple de Dieu, en disant je suis quelqu'un, je fais ceci, j'ai fait cela, et qu'on veut que tout le monde le sache, ça c'est l'affirmation forcée de ma personnalité. Quand on veut mettre la touche sur l'ambition de mes projets ou de nos projets, même dans le domaine des choses spirituelles. Quand nous menons nos affaires, entre guillemets, à tambour battant, quand on verse dans un activisme débordant, dans un tel brouhaha, Dieu peut-il encore me parler et peut-il me diriger? La question, elle est là. Et il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enfants de Dieu, de responsables d'église qui s'inquiètent pour l'état morale et spirituelle de nos communautés, et ils n'ont pas tort, parce que finalement c'est pas l'église qui marque de son empreinte. Le monde, c'est le monde qui est en train de marquer son empreinte dans l'Église. Et on va vers des temps difficiles. Mais on le sait, on n'a pas à s'étonner, hein, la parole nous le dit. Hein. Trouverai-je encore de la vraie foi ? Parce que de la foi, il y en aura toujours. Mais si c'est de la foi charnelle, si c'est des émotions, si c'est toutes sortes d'impressions qu'on se donne pour se faire plaisir et puis se montrer devant les autres, alors je peux vous dire que là, il y en aura toujours. Au contraire, il y en aura de plus en plus. Mais de la foi qui vient du Saint-Esprit, qui est saine, ça, c'est autre chose. Alors comment Dieu peut-il me parler et me diriger ? Comme en écho, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. Et puis, je vous livre cette dernière parole parce que je vous ai donné ce que le Seigneur m'a demandé de vous donner, tout simplement. Je suis heureux de le partager avec vous. J'en prends pour mon compte parce que moi, c'est pas parce que je suis sur l'estrade et que vous êtes... C'est pour tout le monde, et moi y compris. Alors j'entends cette parole et c'est sur cette parole que le Seigneur m'a interpellé pour vous parler. Et je me dis à moi-même, et je me dis, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Frères et sœurs, que le Seigneur vous fasse du bien. Moi, c'est ce que je souhaite, qu'il vous fasse le plus grand bien possible, mais mettez-vous de grâce dans les conditions pour qu'il vous fasse du bien, pour vous laisser entendre des choses qu'il a à vous dire et vous amener à vous diriger vers ce qui est bien et le meilleur, la grâce et la foi. Nous vivons de l'amour du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide ce matin. Amen.